Europe 1. Jusqu'à 10h le samedi sur Europe 1, vous écoutez cette arrivée cette semaine et c'est avec vous Patrick Cohen.
Vous les trouverez souvent parmi les meilleures ventes, les clés de l'épanouissement, les recettes du bonheur. Soyez vous-même, méditez, respectez votre intestin pour vivre équilibré. Oui, respectez votre intestin, etc. etc. 31% des Françaises lisent chaque année un livre de développement personnel, secteur qui génère 53 millions d'euros de chiffre d'affaires, le prix de ce que notre invité appelle les réconforts imaginaires. Bonjour Julia de
Funès. Bonjour Patrick Cohen.
Docteur en philosophie, vous aviez signé l'an dernier avec Nicolas Bouzou la comédie inhumaine sur les absurdités du management d'entreprise. Vous dénonciez déjà les coachs et les chief happiness officers qui sont censés faire le bonheur des salariés. Là, avec ce nouveau livre « Développement impersonnel », vous allez vous faire de nouveaux ennemis.
Ou peut-être, oui, ça commence.
Ou c'est déjà fait. Ceux que vous traitez de charlatans, d'imposteurs qui ne proposent que des niaiseries faciles et démagogiques. Vous en avez lu beaucoup de ces...
Malheureusement,
pour
trop.
Être heureux.
Bah oui, parce que pour écrire un livre, il faut quand même se renseigner. Donc je m'en suis coltinée, c'est le mot vraiment, des dizaines et des dizaines. Et puis je travaille régulièrement aux côtés de coachs, donc je les vois de près.
Et ils sont tous bons à jeter à la poubelle?
Bien sûr que non,
sac.
Évidemment que non. Mais j'aime pas dire il y a des bons et des mauvais, parce que je trouve qu'on se protège et je trouve que c'est démago. Évidemment qu'il y a des bons coachs et des mauvais coachs. Évidemment qu'il y a des bons journalistes et des moins bons journalistes. C'est une lapalissade de dire ça. Simplement, la grande majorité, effectivement, correspond à ce qu'on appelait les sophistes du temps de Socrate, hein, c'est à peu près la même chose, avec la même rhétorique, un métier au contour très flou, aux formations très contestables et qui représente un business, vous l'avez dit, assez considérable.
On rappelle, vous en faites la généalogie, que tout ça existe depuis un siècle. Je rappelle Émile Coué, 1922, inventeur de la célèbre méthode Coué, qui consiste à répéter 40 fois par jour, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
Mais en fait, on n'a pas tellement évolué. C'est du positivisme, pas au sens philosophique du terme, mais c'est de la pensée positive. On positive et puis ça ira mieux. On oublie le réel qui peut être dérangeant et on préfère une illusion douce et réconfortante.
Vous dites qu'il y a beaucoup de positif, mais pas beaucoup de pensée. Au fond, ce que vous dénoncez au-delà du ridicule, des 10 leçons, des 5 bonnes résolutions, des 3 minutes pour revenir à soi, c'est l'illusion qui consiste à faire croire que l'individu est l'unique responsable de son bonheur ou de son malheur ?
Oui, en fait, c'est pour ça que je disais, évidemment qu'il y a des bons coachs, mais c'est un phénomène social, c'est ça qui m'intéresse en tant que philosophe. Finalement, le but du jeu, c'est de se dire, il y a un phénomène social qui se passe, j'en fais la généalogie, et qu'est-ce que ça implique ? Et ça implique une vision assez culpabilisante pour l'individu, parce qu'effectivement, il se dit maintenant, j'ai tous les outils autour de moi pour être heureux, pour être bien, pour être authentique, etc. Et on voit bien que ça ne marche pas, parce que ces recettes sont trop simplistes. Donc, c'est de ma faute si j'y arrive pas. Et c'est ça que je veux révéler derrière le livre, ce sont en général des convois d'idéologie qui vont culpabiliser les lecteurs et qui vont être la plupart du temps inefficaces. Donc non, pas du tout, redonnons confiance aux lecteurs, au grand public, à partir d'eux-mêmes, parce que ça ira beaucoup mieux. Aller au bistrot, pour reprendre le sujet d'avant, et c'est un gage de bonheur bien plus efficace que n'importe quel ouvrage.
Des conseils qui sont dans l'air du temps, parce qu'ils surfent sur le culte du moi et... Et
oui, ça s'explique.
Cette période autocentrée que...
Exactement, il y a un mouvement de subjectivation, d'individualisation, toutes les grandes autorités, toutes les grandes transcendances chutent au fur et à mesure des années. On ne croit plus à la religion pour guider les existences, on ne croit plus à la politique, les gilets jaunes, c'est exactement ça, on ne croit plus à la politique pour guider nos existences, donc c'est à l'individu seul de réussir sa vie. On comprend très bien l'anxiété de l'individu seul face au vertige du soi-toi-même et réussis ta vie, donc il a besoin d'aide, il a besoin d'outils, mais les outils, ça aussi c'est pas possible, on se croirait au néolithique, on est les hommes néolithique 2.0, parce qu'il faut des outils pour tout. Mais les problèmes existentiels, comme le bonheur, la confiance, l'authenticité, ce n'est pas un problème de bricolage ou d'outillage, ce sont des exigences beaucoup plus essentielles et beaucoup plus compliquées que les aides et qui ne se réduisent pas aux aides proposées.
Bon, on va essayer d'être plus précis dans un instant après une courte pause, en écoutant les conseils d'un de ceux que vous démontez, Julia de Funès, dans un instant.
C'est arrivé cette semaine, c'est chaque samedi sur Europe 1 et ça continue jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Avec Julia de Funès, docteur en philosophie, auteur de Développement impersonnel, le succès d'une imposture aux éditions de l'Observatoire. Et à 9h27, c'est le moment de prendre de ses nouvelles, de demander comment ça va, mais de se le demander à soi-même, puisque c'est l'un des préceptes d'un monsieur... ancien avocat psychothérapeute qui vend beaucoup de livres, Thomas Dansembourg.
Un exercice que je propose beaucoup dans mon travail, c'est de se poser cette simple petite question que l'on pose des dizaines de fois par jour à toutes sortes d'autres personnes que soi. Comment ça va ? Comment tu te sens ? se poser à soi cette question. Le premier humain dont nous avons peut-être quand même la charge sur cette planète, le premier humain dont nous avons besoin de nous occuper pour qu'il aille bien et qu'il puisse effectivement rayonner et être généreux de sa joie, eh bien nous poser cette question. Comment tu vas là? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui est heureux dans ton cœur? Et nommer les sentiments agréables. Tu te sens heureux, détendu, confiant, joyeux, léger? Qu'est-ce qui arrive à la plupart de nos contemporains? Nos contemporains espèrent que des choses agréables vont arriver et que des choses désagréables ne vont pas arriver, mais n'ont pas les manettes pour orienter leur vie. Or, c'est pas compliqué, ça nous demande juste un peu de jardinage intérieur.
Thomas d'Anzembourg, qui a vendu 200 000 exemplaires de son dernier livre. Julia de Funès, vous ne croyez pas aux vertus du jardinage intérieur?
Si, mais il faudrait qu'il se pose une question à lui-même, parce qu'apparemment, son petit moi aussi est un sujet à choyer. Est-ce qu'il ne se sent pas un peu idiot quand il dit des paroles pareilles? Enfin, c'est quand même... Et j'ai rien contre cet homme-là, encore une fois, c'est pas ça. Mais quand j'entends des niaiseries pareilles, c'est pas possible. On ne peut pas demander aux gens de se poser la question le matin: est-ce que mon petit moi va bien? Est-ce que je peux jardiner mon petit bonheur? Enfin, il y a des problèmes existentiels graves. Regardez, on est dans... Il y a les gilets jaunes, c'est autre chose quand même, la vie, que de cultiver son petit...
Mais ça marche, intérieur. Écoutez, il remplit des salles,
vous pouvez voir ses
vidéos, il fait des conférences
c'est pas du tout le sujet du carton. Pourquoi ça cartonne? C'est très simple, hein. Pourquoi les demandes, pourquoi ça marche si bien? Les gens me disent souvent, mais ça fait du bien. Oui, mais c'est pas parce que ça fait du bien qu'une chose est bonne. Le shit, ça fait du bien à certaines personnes, c'est pas pour ça que le shit est bon. L'alcool, ça fait du bien à certaines personnes, c'est pas pour ça que l'alcool est bon. Et deuxièmement,
oui,
pourquoi ça marche?
C'est aussi un argument qu'on peut vous opposer, ça ne peut pas faire de mal.
Évidemment, pourquoi j'écris ce livre? Ça n'est pas un sujet essentiel dans l'existence, les coachs. Mais parce que j'ai vu tellement l'effet inverse aussi, où des gens... Parce que c'est un métier, pourquoi c'est dangereux et pourquoi j'en parle? Parce que c'est un métier où les gens rentrent dans la conscience, vous voyez bien, vous avez écouté Thomas d'Anzembourg, rentrent dans la conscience et le psychisme des gens. Quand ça ne fait que du bien, à la limite, tant mieux, mais ça peut détruire des vies. J'en ai vu en entreprise combien où des coachs ont déglingué des gens aussi. Ils se retrouvent chez le psychiatre. Donc c'est ça aussi le problème. C'est quand votre esprit est sous tutelle. Quand il est demandeur de tels conseils, c'est qu'il est fragilisé. Et quand un esprit est fragilisé, il est manipulable dans tous les sens, dans le meilleur comme dans le pire.
C'est ce que vous dénoncez dans ce livre, c'est l'illusion de la liberté, puisque sous couvert de se libérer, écrivez-vous, il s'agit de se régler, de se discipliner volontairement. L'authenticité et l'épanouissement sont mobilisés, puis immédiatement remplacés par la militarisation des esprits et des conduites.
Pourquoi ça marche? C'est très simple et ça revient à ce que vous disiez, c'est que il y a une demande énorme, ça on l'a expliqué, et donc c'est pas l'offre qui crée la demande, c'est pas parce que les ouvrages sont bons, les conseils sont bons que la demande est là, c'est parce qu'il y a une demande énorme que les ouvrages surfent sur ces besoins psychologiques de l'individu moderne, et j'en fais la généalogie dans le livre. Donc évidemment que ça marche parce qu'ils appuient sur les attentes et sur les fantasmes les plus communs à l'humanité. Fantasmes que Freud avait déjà cartographiés, qui sont de trois ordres. Un, fantasme de possession, on va reprendre sa vie en main, c'est la promesse. Deux, tout est possible, c'est-à-dire que c'est illimité, évidemment que la réalité me déborde, mais là on est sur le terrain du fantasme, il n'y a pas de limite. Et trois, de la séduction, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore apprécié à quelle juste valeur vous êtes si extraordinaire, mais moi je vais vous révéler combien vous êtes formidable. Donc voilà, ça, on a tous envie d'entendre ça. Mais à ces illusions-là, à ces promesses-là trop faciles, parfois il faut se confronter au réel, et je pense que c'est ce que ces ouvrages évitent, et c'est pour ça que ça marche.
Il y a aussi la promesse de la rapidité, puisque beaucoup de ces modes d'emploi sont faits pour être... réalisé en trois mois,
c'est ça
trois
qui est
semaines
fou.
Ou
c'est là qu'on voit
jours.
L'imposture, parce que c'est d'une évidence que je dis, vous savez, c'est du bon sens, hein, c'est pas très intelligent mon livre, hein, c'est au sens c'est vrai, comment voulez-vous être heureux en cinq leçons, ou cesser d'être gentil, c'est le titre de Thomas d'Anzembourg, cesser d'être gentil, soyez vrai, mais cesser d'être gentil, soyez vrai, comment vous cessez d'être gentil, enfin c'est quoi? Et la rapidité, c'est dans l'air du temps, l'efficacité, la rapidité sont des valeurs, la lenteur est beaucoup moins valorisée, simplement le bonheur, la confiance en soi, l'authenticité sont souvent des choses qui des travaux d'une vie entière. Donc évidemment, réduire ça à des préceptes, à des codes de conduite, à des guides comportementaux rapides n'apporte pas beaucoup de consistance.
Pour la rapidité, vous citez Nietzsche, qui veut être éclair doit rester longtemps nuage.
Bien sûr, et obéir longuement, longtemps et dans une même direction à un but qu'on s'est fixé procure beaucoup plus de sève à notre être que n'importe quelle recette.
Bon, alors on a cité Nietzsche, mais vous recommandez la lecture des philosophes.
Non,
mais...
alors pas tellement, à vrai dire, parce que je ne veux pas mettre la philo sur... Non, je ne fais pas un comparatif entre la philo et le développement personnel, parce que la philosophie ne prétend pas rendre heureux. Donc ce serait ridicule.
Mais ce n'est pas une technique comportementale.
Ce n'est pas une technique, et je rentrerais dans la critique, dans ma propre critique, si j'apportais des recettes. Pas du tout, je crois plus au bistrot, au sport, aux activités, aux réalisations concrètes. La lecture, vraiment, je ne suis pas là de la philosophie. La philosophie, elle est fantastique quand elle est pensée comme une activité, comme une autre, et se plonger, travailler la philosophie, ça peut procurer effectivement du bien-être, du mal-être aussi, parce que c'est très dur. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout à valoriser la philo par rapport au développement personnel.
Ça a parfois été pris comme ça. Vous avez vu ces derniers mois le succès des livres consacrés à Spinoza, qui ont aussi été reçus parfois comme des préceptes de vie.
Oui, simplement, et là vous pensez à Frédéric Lenoir.
Oui,
je ne le mets pas du tout dans le même cadre, parce qu'il n'y a pas de recette. Là, il transmet une sagesse, parfois de façon simplifiée ou bonheuriste, mais ce n'est pas du tout des recettes comportementales. Donc ce n'est pas du tout la même chose, je ne le mets pas du tout dans le même sac. Mais en revanche, la philosophie, elle apprend quoi ? À déjouer les impostures, à déceler les idéologies, à redevenir intelligent à partir de soi-même. Et c'est tout l'objet de ce livre, en disant « Lisez ça, vous allez reprendre un peu les rênes de votre esprit ».
Voilà, et jetez les autres livres. Développement impersonnel, le succès d'une imposture, Julia de Finesse, aux éditions de l'Observatoire.
Merci
d'être venu nous en parler.